Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Bonjour, c'est Isabelle Labéry. Nous sommes le 2 mai 2024. Il y a 799 jours que la Russie a envahi l'Ukraine.
Slava Ukraine.
Slava Ukraine. Героям слава.
Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.
Dans cet épisode, on va parler de la Russie qui grignote de plus en plus de territoires à l'est, d'un blessé de guerre qui se sent lâché par l'État et d'un tennisman qui a échangé sa raquette contre un fusil mitrailleur. Mais avant tout cela, saluons Agathe Mahué qui rentre en France, la gorge un peu serrée, ça s'entend. Dans quelques jours, c'est Virginie Pironon qui lui succédera.
Hello Isa, un dernier petit mot d'Ukraine pour toi puisque je m'en vais tout à l'heure avec ce fameux train couchette vers la Pologne qui est toujours d'actualité pour sortir du pays, comme tu le sais bien. Voilà, 24 heures de voyage pour rejoindre Paris et je sais déjà que je vais être triste à nouveau dans ce train au départ de Kiev parce que un mois de reportage ici, c'est très intense, c'est plein d'émotions et ça fait drôle de laisser tout ça, de rentrer tranquillement chez soi, dans son pays qui est pas en guerre. La vie normale quoi, et la vie à laquelle aspirent tous les Ukrainiens ici qui voudraient juste pouvoir vivre librement, faire des projets, voyager aussi pour les hommes qui sont bloqués ici depuis 2 ans. Bref, moi je vais repartir avec plein de reportages et de rencontres dans la tête. Mikola, le pêcheur qui continue de pêcher à 2 pas de la frontière russe, malgré les booms au-dessus de sa tête. Les jeunes de Kharkiv qui ont juste envie d'être jeunes, de s'amuser, de se construire, alors que leur ville est bombardée toutes les nuits par la Russie. Les enfants qui vont en cours dans l'abri anti-atomique de leur école aussi, ou cet ancien soldat qui ne marchera plus jamais, qui est en fauteuil roulant, mais qui veut retourner au front quand même. Ouais, les gens sont impressionnants ici, Isa, et moi je suis fière d'avoir pu raconter leur histoire, leurs histoires. Je suis fière que Radio France reste en Ukraine en permanence depuis tout ce temps, qu'on se relaie pour ça. Et j'espère vraiment que les auditeurs continueront d'écouter toutes ces histoires en Ukraine. Allez, je t'embrasse Isa et à bientôt à Paris.
L'Ukraine a été dépassée ces derniers mois. Et la Russie a pu progresser le long de la ligne de front. Mais il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte.
En déplacement à Kiev ce lundi, le secrétaire général de l'OTAN se montre optimiste. Mais sur le terrain, l'armée ukrainienne doit bien concéder ce qu'elle appelle pudiquement des succès tactiques. Un village près de Tchassiv Yar, une pression incessante au nord d'Avdiivka, des bombes planantes sur Pokrovsk, Kharkiv ou Odessa.
Là, actuellement, nous avons des surprises. Nous avons une avancée de 5 kilomètres sur 2 ou 3 jours, ce qui est exceptionnel par rapport au rythme précédent de tout l'hiver. On sent bien que l'armée russe pousse pour obtenir cette percée, pour influencer les opinions publiques occidentales et que l'on cesse ce soutien.
Cédric Mass est historien militaire, président de l'Institut Action Résilience, un groupe de réflexion autour des enjeux de défense internationale. Il est au micro de Lucie Barbarin sur France Info.
On sent bien que l'armée russe profite de cette fenêtre de vulnérabilité ukrainienne qui s'est ouverte à partir d'octobre et la fin des livraisons occidentales de munitions et qui est en train de se refermer avec l'arrivée des premières livraisons américaines après le vote de la semaine dernière. C'est pour ça qu'ils font cet effort pour effondrer. Les taux de pertes sont élevés. Songez par exemple qu'hier, les Ukrainiens ont perdu 1 blindé en perte documentée. Donc c'est évidemment sous-évalué. Les Russes ont perdu 3 chars et 10 blindés. On est sur des ratios de 1 à 10 actuellement. Ils vident leurs réserves. Ils envoient tout comme s'il n'y aurait pas de lendemain. Ils visent vraiment une décision dans nos esprits avant novembre 2024, qui sera l'élection américaine et peut-être le changement à la Maison Blanche qui lui permettrait d'emporter politiquement une victoire qu'il ne peut pas obtenir militairement.
Toujours à la poursuite coûte que coûte de cette victoire sur le terrain, les troupes russes auraient même utilisé un agent chimique contre les forces ukrainiennes. C'est ce que dénonce en tout cas le département d'État américain dans un communiqué publié le 1er mai. Explication signée Christian Chéneau.
Selon le département d'État américain, la Russie aurait utilisé de la chloropicrine, une substance duale puisqu'elle est employée en agriculture comme pesticide et fongicide, mais aussi dans des munitions ou comme arme anti-émeute pour disperser des manifestants. La chloropicrine provoque l'irritation des yeux, du nez et la gorge avec un effet suffocant. Son utilisation est prohibée par la Convention sur l'interdiction des armes chimiques dont la Russie est signataire. Washington indique que l'utilisation de cet agent chimique est sans doute motivée par le désir des troupes russes de déloger les soldats ukrainiens de leurs positions fortifiées et de réaliser des avancées tactiques sur le champ de bataille. La Russie répète ne plus détenir d'arsenal d'armes chimiques militaires. Le Kremlin qui accuse même l'Ukraine d'avoir recours à ce type de munitions prohibées par le droit international.
Le Kremlin qui qualifie évidemment d'infondées les accusations américaines et assure par la voix de son porte-parole que dans ce domaine, la Russie respecte le droit international. Un droit dont elle s'affranchit complètement en d'autres circonstances. L'ONG Human Rights Watch révèle ce jeudi de façon très étayée que plusieurs soldats ukrainiens désarmés ont été abattus de sang-froid sur le front par des combattants russes entre décembre 2023 et février 2024. L'ONG a pu géolocaliser, dater et identifier les protagonistes grâce aux prises de vue des drones ukrainiens, de quoi alimenter des dossiers pour crimes de guerre devant la justice internationale. Avec la guerre qui s'éternise, les combattants ukrainiens sont de plus en plus nombreux à revenir du front avec des blessures qui ne les quitteront plus. Partout dans les rues, on voit des soldats amputés, équipés de prothèses ou en fauteuil. Mais la société ukrainienne est-elle vraiment prête à accueillir autant d'handicapés de guerre? Je vous propose d'écouter ce reportage tourné dans la région de Kiev par Agathe Mahué et Yachar Fazilov.
Oleksandr Popik a toujours ses deux jambes, mais elles ne répondent plus depuis un an et demi. Dans son fauteuil roulant, chez lui, il raconte son arrivée à Bakhmout dès le début de la guerre. En octobre 2022, en plein assaut, il est atteint par le tir d'un char.
Ça m'a fait un trou de 17 cm dans la colonne vertébrale. La moelle épinière est touchée.
Prise en charge à Dnipro, puis à Kiev et jusqu'en Pologne, le diagnostic est clair.
On m'a dit que je ne marcherai plus jamais.
Oleksandr soudain se tord de douleur en silence. Il enfonce très fort sa main dans sa cuisse. La souffrance lui déforme le visage. C'est normal, dit-il. C'est tout le temps comme ça.
J'ai des spasmes, des crampes en permanence, tous les jours depuis un an et demi. Je ne dors plus jamais correctement, ni la nuit, ni le jour, malgré les somnifères.
Des médicaments, il en prend plein, mais ce qui l'aide vraiment, c'est la moto.
Ma femme me scotche les jambes sur la moto et c'est parti, je fonce.
Pour calmer ses souffrances, il lui faudrait un neurostimulateur, mais cela coûte 17 000 euros.
Et l'État s'en fout, je dois trouver cette somme moi-même.
Oleksandr bataille déjà pour toucher sa pension d'invalidité et réaménager sa maison. Une rampe d'accès pour son fauteuil. La salle de bain, c'est son épouse et ses amis qui l'ont refaite. Supprimer le bac de douche, surélever le lavabo.
On a payé tout ça de notre poche. L'État, quand tu es au front, a besoin de toi. Mais si tu en sors handicapé, plus personne ne s'occupe de toi.
Des soldats en fauteuil comme lui, il en connaît beaucoup. Pour lui, l'Ukraine n'est pas prête face à ce défi-là. Mais si c'était à refaire, il y retournerait. Sa femme, Katia, dit qu'elle ne le laisserait pas repartir.
C'est assez comme ça. Il a déjà trop souffert.
Oleksandr, pourtant, insiste, sa place est au front. Mettez-moi des chenilles sur mon fauteuil, dit-il, et je repars à l'assaut.
Lui aussi, il a voulu à tout prix aller sur le front.
Je suis revenu parce que j'étais prêt à aider. J'étais prêt à me battre. C'est la seule raison. Si je n'avais pas été prêt, je ne serais pas revenu.
Sergueï Starovski est l'un des Ukrainiens les plus célèbres du circuit ATP, 30e joueur au niveau mondial. Son fait de gloire est d'avoir battu Roger Federer à Wimbledon. Mais 4 jours après le début de la guerre, il troque ses polos contre un treillis, ses raquettes contre un fusil mitrailleur.
Là, au moment où des millions d'Ukrainiens sont en train de fuir et en train de passer la frontière pour aller vers la Slovaquie, pour aller vers la Pologne, lui, il fait le chemin inverse.
Nicolas Jambou est le réalisateur de ce documentaire, L'équipe explore, disponible sur le site du quotidien. Il répond à Céline Baydarcourt sur France Info.
Et à ce moment-là, il dit je vais vers le chaos et je ne sais pas si je vais revenir.
Il y a des centaines de milliers d'Ukrainiens qui n'ont pas vu leur famille depuis très longtemps, qui ne savent même pas si leur père, leur frère ou leur mari est toujours vivant. C'est très, très dur. Mais est-ce qu'on a le choix ?
Il parle d'éducation, il parle d'attachement à son pays, il parle de valeurs, il parle de... Mais en fait, j'ai commencé à travailler sur Sergueï Stakhovski il y a 8 mois, et aujourd'hui encore, j'ai pas vraiment une réponse à cette question. Pourquoi est-ce qu'il a décidé d'aller se battre? Il est multimillionnaire. Il partait en vacances à Dubaï avec sa famille. Il pouvait s'acheter une maison en Côte d'Azur comme la plupart des retraités de joueurs de tennis. Et il décide du jour au lendemain, au 4e jour de guerre, de partir en Ukraine.
Definitely the war changed me and changed. La guerre m'a changé.
My understanding of happiness.
Elle a changé ma compréhension du bonheur.
I think human nature.
C'est une question de nature humaine.
C'est assez marquant parce que moi, quand j'étais adolescent, je suivais énormément le tennis et je me souvenais de ce joueur pour le coup parce que je loupais pas beaucoup de matchs. Et je me souviens d'un joueur chambreur, assez souriant. Et là, moi, j'ai rencontré en Ukraine quelqu'un de très froid, quelqu'un de très dur, quelqu'un de très distant de ses émotions. Et même entre novembre et février, qui les deux moments où je suis allé le suivre à Kiev, j'ai vu un changement.
The front was on the outskirts of Bakhmut, behind the city.
Le front était à l'extérieur de Bakhmut.
But they were slowly coming in.
Mais les Russes venaient lentement vers nous. Je pense qu'au plus près, ils étaient à 800, 900 mètres.
So we didn't have visual contact. We were
shooting. On tirait vers eux au mortier, à l'aveugle.
Слава Україні!
Героям слава!
Постріл!
Pour terminer cet épisode, on retrouve Olia Chourova qui tient une école de français, musique de langue, dans la capitale ukrainienne.
Coucou, c'est Olia de Kyiv, toujours là, toujours vivante, toujours en pleine forme. Il est presque 23h à Kyiv, je viens de rentrer en fait, donc j'ai pas mal travaillé. Voilà, mais en gros ça va. Il fait très beau à Kyiv maintenant, il y a le printemps qui s'est enfin installé. Les fleurs et tout, les arbres fleurissent, très très beau. Aussi, samedi, le 4 mai, je vais avoir mon anniversaire et je vais avoir 36 ans. J'essaie de m'habituer à cette pensée que je n'ai plus 18 ans quand même, c'est 36 maintenant. Comme ces deux dernières années, je ne veux pas de cadeaux, je vais plutôt faire une collecte d'argent pour l'armée parce que c'est ce qu'on fait maintenant. Peut-être pas tout le monde, mais la plupart des gens, en tout cas toute ma bulle, si on peut dire ça, on utilise cette occasion de l'anniversaire pour faire une collecte d'argent et pour la donner à l'armée. Voilà, mais on ne perd pas d'espoir, on ne perd pas de cette foi. Voilà, je suis sûre qu'on va quand même gagner, mais on comprend tous que ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de gens malheureusement, mais comme on n'a pas le choix... On continue. Voilà, c'est mon chat Fox qui est venu te passer ses salutations. Aussi, j'ai beaucoup de répétitions de musique parce que, comme je suis aussi musicienne, j'ai plusieurs concerts en mois de mai. Mais aussi, d'ailleurs, tout le revenu des billets pour les concerts, 100% de revenu va pour l'armée. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Tout le pays travaille pour le victoire. On ne veut plus de cadeaux d'anniversaire, on ne veut plus de revenus de concert. On donne tout à l'armée pour que ce cauchemar finisse au plus vite possible. Voilà, faisons tout ce qu'on peut. Mais en tout cas, bonne journée ou bonne soirée. Et il y a Fox qui te passe ses salutations. Allez, bisous.
Додому один. Може,
Vous écoutez Mogé, une chanson du groupe Dolia, Blooms Corda. Elle est sortie bien avant la guerre, en 2018. Mais j'ai trouvé qu'elle allait parfaitement avec l'esprit de ce mois de mai. En Ukraine, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Agathe Mahué, avec Yachar Fazilov, Cédric Mass, Christian Chéneau et Nicolas Jambou. Mise en onde, Florent Bujon. Production, Isabelle Labéry. À jeudi.
C'était Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.